L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM, l'émission quotidienne de Transistor, le nouveau nom de Radio Évasion, vous le savez. Mais LEM, c'est toujours en direct à midi, en rediffusion à 18h. Et c'est souvent avec l'association Bretagne Vivante qui vient nous voir une fois par mois. Ça nous ouvre un grand champ d'exploration avec des animaux, parfois des végétaux, plus généralement des milieux. Et là, on découvre un territoire, un petit territoire, mais qui fait beaucoup rêver. Parfois pour son malheur. Ça ressemble au cliché des îles de rêve, au bleu, sable blanc. Soleil, souvent. J'ai nommé l'archipel des Glénans à Fouesnant. L'archipel est, le savez-vous, une réserve naturelle nationale. La réserve naturelle nationale de Saint-Nicolas-des-Glénans, et ce depuis 50 ans. Cette année, c'est l'anniversaire de la réserve. Bretagne Vivante est donc chargée de gérer ce lieu fragile, et elle s'apprête à fêter ça. Et en particulier, Marion Diard, qui est la conservatrice de la réserve naturelle des Glénans, et Marie Mondielli, qui est chargée d'études sur la réserve. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qu'une réserve naturelle, Marion, et celle des Glénans en particulier ?
Alors, il faut savoir que la réserve naturelle de Saint-Nicolas-des-Glénans a été créée le 18 avril 1974, donc il y a bientôt, cette année, 50 ans. L'origine de la création de cette réserve, c'était le narcisse des Glénans. C'est une espèce endémique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite fleur qui fleurit au mois d'avril, comme une petite jonquille blanche. Et donc, une espèce que l'on retrouve principalement que sur les Glénans, espèce qu'on appelle endémique.
Il y en a nulle part ailleurs, si
Non, nulle part ailleurs. Ouais. Par contre, elle a des cousines que l'on retrouve. Donc là, c'est la sous-espèce Narcissus triandrus, sous-espèce Capax. Et ses cousines, c'est des cousines qui sont plutôt du côté du Portugal et en Galice.
Et donc c'était l'espèce qui a justifié la création de la réserve.
Voilà, en 1974. Et puis au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que c'était important également de protéger l'ensemble de l'île de Saint-Nicolas. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des espaces dunaires remarquables, mais également de la faune notamment de l'avifaune aussi protégée, comme par exemple le gravelot à collier interrompu, qui est une espèce protégée que l'on retrouve sur Saint-Nicolas.
Un oiseau dont on a parlé récemment à la radio d'ailleurs.
Et du coup, en 1998, on a créé un arrêté de protection qui a élargi la réserve à l'île de Saint-Nicolas, à la partie non urbanisée de l'île de Saint-Nicolas.
Saint-Nicolas, c'est la seule île d'ailleurs urbanisée dans l'archipel, c'est ça ?
Alors oui, c'est la seule île urbanisée, enfin, où on retrouve des activités, des maisons, on va dire, des habitants. Et après, sur d'autres îles, on retrouve des bases, par exemple, du Centre nautique des Glénans, sur Pinfret, sur Drenec. Sur Cigogne, on retrouve des bases du Centre nautique des Glénans.
Mais pour autant, c'est seulement l'île Saint-Nicolas qui est dans la réserve, c'est ça ?
Voilà. Actuellement, la réserve naturelle de Saint-Nicolas, la réserve intégrale, donc l'enclos à Narcisse, fait 1,53 hectares et sur l'île de Saint-Nicolas. Et après, on a tout le périmètre, on va dire naturel, non urbanisé de l'île de Saint-Nicolas, qui est classé en réserve naturelle nationale.
Mais sinon, des narcisses, il y en a partout dans l'archipel. Il y a pas
Justement, il n'y en a que sur Saint-Nicolas et sur trois autres îlots, le Vau, la Tombe et Brunec, qui sont, eux, classés dans le périmètre de protection de la réserve.
Et pourquoi c'est pas tout l'archipel en fait qui serait protégé ?
Alors ça, c'est il y a des projets qui sont en cours là sur l'extension d'une future réserve pour préserver justement la biodiversité marine et terrestre. C'est un long travail qui demande de beaucoup d'échanges avec l'ensemble des usagers, avec l'ensemble des acteurs. Un projet d'extension a été annoncé et est piloté par les services de l'État actuellement. Mais on sait que tout ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'échanges avec l'ensemble des acteurs. Sinon, pour la question qu'est-ce qu'une réserve naturelle ? En fait, une réserve naturelle nationale, c'est un espace protégé qui abrite une faune et une flore remarquables. Et sur cet espace protégé, on a une réglementation approprié. Les objectifs d'une réserve naturelle, c'est tout d'abord gérer. Donc Bretagne Vivante est gestionnaire, mais travaille depuis plus de 50 ans avec la mairie de Fouesnan, la communauté de communes du pays fouesnantan et également le conseil départemental qui est propriétaire. Gérer, ça veut dire par exemple mettre en place un platelage. Donc c'est tout un cheminement en bois. Que l'on...
Des caillebotis un peu, quoi, c'est ça?
Voilà, un peu ouais. Comme des caillebotis, tout un cheminement en bois qui fait le tour de l'île. Ce cheminement en bois évite le piétinement en fait, de la dune par la fréquentation. Un des autres objectifs d'une réserve naturelle, c'est partager la connaissance et c'est faire des suivis scientifiques. Ça fait plus de 50 ans que Bretagne Vivante est associée à, par exemple, le Conservatoire Botanique National de Brest ou alors des chercheurs, des universités réalisent des suivis scientifiques. Donc on a des données de plusieurs années sur les oiseaux marins, sur le gravelot à collier interrompu, mais également la flore. Bien sûr, on fait le suivi des populations de narcisses, mais il y a une autre petite fleur qu'on appelle et que j'aime bien, l'emphalode du littoral, Emphalodes littoralis, et on fait des quadras et des transectes, donc c'est des lignes, en fait c'est un mètre qu'on étend, et tous les centimètres on compte le nombre de pieds, voilà, et ça permet d'avoir une évolution sur le long terme en fait de ces populations d'emphalodes, mais également de flore, voir qu'il y a des baisses par exemple d'effectifs. Là cette année au comptage cormorans par exemple, on a observé une baisse importante des nids de cormorans dans l'archipel. Et en fait, en parlant avec nos collègues, et notamment Bernard Cadiou de l'association Bretagne Vivante, on s'est rendu compte que c'était une baisse globale à l'échelle de la Bretagne. Et tout ça est lié aussi à la destruction des nids, par exemple, lors des dernières tempêtes qu'il y a eu.
Voilà, c'est pas la grippe aviaire, là, pour le coup.
Non, là, c'est pas la grippe aviaire. L'année dernière, la grippe aviaire a touché principalement les colonies de sternes sur l'île aux moutons.
Donc, vous occupez plutôt de flore, d'oiseaux. Il y a d'autres espèces, éventuellement?
Oui. Par exemple, les phoques, le phoque gris. On en retrouve beaucoup, et même de plus en plus, sur l'archipel des Glénans. C'est la limite sud de répartition, en fait, de cette espèce. Bien qu'aujourd'hui, on en voit de plus en plus, ça descend, en fait, de plus en plus vers le sud. Nos collègues à Watt, par exemple, en observent. Et on réalise 6 fois par an des suivis de la population, et notamment des reposoirs. Localiser les reposoirs. Pourquoi localiser ces reposoirs?
C'est quoi, c'est les rochers?
C'est les rochers, ouais, sur lesquels se reposent les phoques gris. Et pourquoi les localiser? Justement pour pouvoir sensibiliser le public à mettre par exemple des maraudes en mer sur ces secteurs-là aux grandes marées.
Mais pour pas que les bateaux s'amarrent,
voilà,
sur les rochers, quoi, en fait.
C'est voilà. Ça amarre ou s'approche, ouais, et d'accord, provoque du dérangement.
Mm-hmm. Oui, et d'autres espèces, oui, encore, ouais.
Oui,
est-ce que la réserve ne concerne que la partie terrestre, c'est ça? Mais est-ce qu'il y a des espèces,
oui,
marines,
y a d'autres,
qui vous intéressent?
Alors il y a d'autres espèces que l'on suit. Il y a un super programme qui est mené par Bretagne Vivante qui s'appelle l'OBCE. C'est l'Observatoire des changements sur les estrants. Donc pareil, chaque année, l'équipe de Bretagne Vivante reçoit plein de bénévoles passionnés qui viennent inventorier l'estran, toutes les petites bêtes de l'estran. Et du coup, tout ça permet d'alimenter en fait une base de données scientifiques et permet aussi d'améliorer les connaissances pour aussi mieux protéger ces espèces et ces espaces.
Il n'y a pas un escargot des Glénans comme il y a un escargot de Quimper?
Non, il y a le narcisse des Glénans qui est déjà une espèce
déjà
endémique et protégée au niveau national. Mais voilà, il y a plein d'autres espèces protégées comme l'emphalode, mais comme le puffin des Baléares aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, les phoques gris, enfin voilà. Mmh. Un autre objectif d'une réserve naturelle, j'ai parlé de la gestion des suivis scientifiques, c'est aussi sensibiliser. Le travail de sensibilisation, c'est vraiment très important. Et au sein de notre équipe de la réserve, on a une animatrice nature vraiment super, Manon, qui réalise chaque année des animations grand public. Donc, au cours de la saison, elle va recevoir du public, des touristes, des animations passionnantes, et elle fait également des animations auprès du public scolaire et des scolaires localement.
Une sortie scolaire au Glénan, quoi.
Ouais, sympa. Plutôt sympa.
Donc c'est des balades nature, quoi, en fait.
Ouais,
c'est ça.
Des balades ouais. nature. Mmh. Et puis, un autre volet d'une réserve, c'est aussi faire respecter la réglementation.
Vous avez un pouvoir de police,
oui,
Marion?
On est à deux. Margot, ma collègue, et moi-même, on est à deux à avoir, être assermentés et pouvoir faire respecter la réglementation. La réglementation, je le dis bien, de la réserve naturelle nationale actuelle.
Oui, c'est ça.
Dans son périmètre.
Donc, c'est quoi si on n'a pas le droit de cueillir un narcisse, par exemple?
Non,
des choses comme
pas
ça.
Le droit de cueillir un narcisse, bien tenir son chien en laisse.
On a quand même le droit d'amener son chien.
On a le droit d'amener son chien et bien le tenir en laisse. Et par contre, ils ne sont pas acceptés sur les plages. Mm-hmm. Donc, voilà.
C'est une amende, en fait, c'est des choses comme ça. Voilà. Ça vous arrive de dresser des amendes?
Ça arrive assez rarement. Je suis vraiment pour la sensibilisation, bien informer le public, bien leur faire comprendre pourquoi. En fait, il faut éviter d'aller dans des zones interdites, par exemple.
Et pourquoi c'est une réserve nationale et pas, je ne sais pas, parce qu'il y a plein de sortes de réserves, hein, régionales, départementales,
nationale,
etc.
Parce que le narcisse des Glénans est une espèce protégée au niveau national. Voilà. Vous avez également dans l'archipel la réserve associative. Donc là, c'est une réserve associative. Bretagne Vivante, il y a énormément de réserves, gère énormément de réserves associatives au sein de l'asso. Et l'île aux moutons, voilà, on n'a pas eu un statut de réserve naturelle nationale, mais un statut de réserve associatif. Avec des conservateurs bénévoles, et donc là qui protège la colonie de sternes, une colonie plurispécifique, où l'on retrouve la sterne Pierre Garin, la sterne de Dougal et la sterne Kojek. Donc il faut savoir quand même que la sterne de Dougal, c'est une espèce en voie d'extinction actuellement, et que l'île aux moutons, c'est la plus grande colonie française actuellement. Donc un site à enjeu majeur. Également pour les colonies de Kojek, où là, c'est la deuxième colonie française la plus importante, après Sébastopol, sur le secteur de Sébastopol. Donc voilà, et sur l'île aux moutons, bien évidemment, aujourd'hui, l'accès est interdit au débarquement. Depuis 2022-21, il y a un arrêté préfectoral qui interdit l'accès au débarquement. Et du coup, ça permet de protéger toute cette avifaune et également les phoques.
Et là, c'est une association qui est différente de Bretagne Vivante,
non,
qui s'occupe de ça, non?
C'est toujours l'association Bretagne Vivante qui est gestionnaire de cette réserve associative, et ce, depuis plus de 60 ans.
Et vous, Marie Mondielli, qu'est-ce que vous faites exactement, Glénan, comme chargée d'études?
Alors moi, je fais pas mal de suivi naturaliste. Donc en ce moment, je fais un peu reptile, donc je fais le suivi des lézards, des orvées.
Ah, il y a des lézards aussi, hein, ouais. Décidément.
C'est ça. Et je fais aussi les suivis de gravelots. À collier interrompu, des suivis d'huîtriers. Et là, à partir du mois de juin, je vais être sur le suivi des puffins et des maraudes en mer de sensibilisation sur les puffins.
Des maraudes? Ah oui, donc vous prendrez votre bateau et puis vous irez voir comment vont les puffins, c'est ça, concrètement?
C'est ça, on va faire... Il y a deux types de suivi, un suivi plus scientifique avec encore des transectes en mer, pour recenser le nombre d'oiseaux. Et après, il va y avoir des suivis où on va à la fois observer un petit peu les interactions entre les plaisanciers et les puffins, et également aller au contact des plaisanciers pour les sensibiliser sur les comportements à avoir avec ces oiseaux-là.
Et un puffin, ça ressemble à quoi, juste pour l'image, pour l'image à la radio?
C'est un petit oiseau marin. Enfin, un petit oiseau. Un oiseau marin, comment le décrire?
Dans quelle couleur déjà?
Plutôt brun, en fait. Après, il y a différentes espèces. Hein. C'est toujours la complexité des espèces de l'ornithologue. Mais on va dire, comment décrire ça de manière simple?
Est-ce qu'il a une même silhouette que les sternes, les mouettes, les goélands?
Non, c'est plus grand qu'une sterne. On va dire un goéland argenté tout brun. Allez,
ouais,
peut-être.
Ouais, blanc.
Alors, par contre, avec un vol vraiment particulier, il bat des ailes très, et il est au ras de l'eau et il bat des ailes très rapidement. Voilà.
Très bien. Alors, Marion Guérard, 50 ans pour la réserve nationale hein, de Saint-Nicolas. Il y a eu des étapes, des grandes étapes qui ont marqué ces 50 ans d'histoire ?
Alors oui, depuis 50 ans, c'est difficile de résumer 50 ans de gestion comme ça rapidement. Mais un peu dans l'historique, au début, il y a eu de gros chantiers de végétation. Toute la parcelle de Narcisse était... rempli de ronces et tout ça, donc il y a eu des gros chantiers de
débroussaillage, en fait.
Débroussaillage, ouais. Exactement, pour ouvrir la parcelle et permettre aux narcisses de pousser. Après, il y a eu ce gros chantier aussi de platelage. On a vu que le site est fréquenté, donc pour canaliser cette fréquentation, il a fallu mettre en place un platelage. Faut savoir que quand même, on est sur les îles, donc ramener le matériel, ouais, ouais. Ça demande énormément de travail. Et là, je remercie vraiment la commune de Fouesnant et la collectivité qui nous aide au quotidien vers la rénovation, ce platelage, parce que tous les ans, il est abîmé. Donc voilà, il y a aussi tous les suivis scientifiques depuis 50 ans. On les améliore, on les...
Combien il y en a eu? Vous les avez comptés?
Oh non, je ne sais pas, mais il y en a une bonne vingtaine de suivis. Il y a un super suivi qui est réalisé par l'ANAF de l'UBO, par exemple, sur le suivi du trait de côte.
L'érosion, alors. Là.
L'érosion, ouais, voilà. D'accord. Parce que le site est quand même soumis aux tempêtes et à l'érosion.
C'est une île qui est très basse, il n'y a pas d'altitude, on peut le dire.
Très peu. Ouais, c'est plus Pinfret qui est l'île la plus haute.
Et c'est du sable, surtout.
Oui, principalement.
Donc ça s'érode.
Voilà, ouais. Exactement. Donc il y a tous ces suivis scientifiques qui sont menés. Puis plus récemment, il y a eu un réseau d'ambassadeurs, des ambassadeurs de la réserve naturelle. Donc c'est des prestataires touristiques. Ça peut être des vedettes, des transports de passagers, mais également des animatrices nature qui viennent, qui se sont associées et qui ont signé une charte d'engagement pour être partenaire de la réserve naturelle et du coup transmettent eux aussi les bons messages et les bonnes pratiques. Donc l'année dernière, il y a eu une stagiaire, Lorraine Massini-Codon, qui a fait un super stage sur la fréquentation touristique. Et faut savoir que le site est quand même très fréquenté.
Voilà, c'est une fragilité. Enfin, c'est vraiment, on va dire, quand même typique des Glénans. C'est oui. Ça, la fréquentation. Il n'y a pas seulement l'école de voile, quoi.
Non, il n'y a pas seulement l'école de voile. Et notamment sur Saint-Nicolas, il y a de plus en plus une fréquentation touristique importante.
Qu'est-ce qu'elle a observé, alors ?
Alors, du coup, elle a mis en place un observatoire de la fréquentation touristique avec des indicateurs qui peuvent être qualitatifs ou quantitatif, et c'est vraiment un chouette projet parce que c'est un observatoire participatif, donc il va avoir des comptages qui sont faits par la mairie de Fouesnant et la collectivité, des comptages sur site où ils vont compter typiquement le nombre de personnes sur la plage ou le nombre de bateaux, mais il y a également tous les acteurs socio-économiques qui participent. Par exemple, le Centre nautique des Glénans va transmettre ces données. Le centre de plongée va également dire le nombre de stagiaires qu'ils ont eu au cours de l'année, ou alors les vedettes de l'ODEC qui vont transmettre. Donc en fait, ça permet d'avoir un ensemble de chiffres qui permet de savoir à peu près, d'avoir une idée de la fréquentation sur le site. Et comme ça, plus on sait combien de personnes et comment s'organise la fréquentation sur le site, plus on pourra avoir une meilleure gestion de cette fréquentation.
Vous avez un chiffre juste pour qu'on ait une idée ?
2000 personnes environ au max, voire même plus en pic.
En été, pour une journée.
Ouais. Ouais. Et environ plus de 400 bateaux au mouillage.
Ah oui.
Oui.
Ah oui, en effet.
Et en fait, c'est une fréquentation qui est très variable, vraiment en fonction des conditions météo, quoi. Et du coup, c'est vraiment un chouette projet, cet observatoire qui est aujourd'hui piloté par la CCPF, la communauté de communes, et la chargée de mission Natura 2000. Et une action importante aussi qui a été réalisée récemment, c'est la mise en place des mouillages. Donc la commune de Fouesnant et la collectivité ont mis en place des mouillages écologiques. Ils augmentent le nombre de mouillages écologiques.
Donc ils ne raclent pas le sol, c'est ça ?
Voilà, ouais. Qui préservent en fait les fonds marins. Et depuis l'année dernière, ils ont mis en place des agents de sensibilisation. Et ça, c'est vraiment chouette parce que nous, on a des agents sur à terre. Par contre, en mer, on n'avait pas de, il y avait pas. Et du coup, la collectivité a pris le relais. Et du coup, il y a deux agents, deux jeunes, qui vont faire de la sensibilisation auprès des plaisanciers pour leur transmettre les bons messages, comment où à mettre son bateau. Enfin voilà. Vous parlez de la réglementation sur le site. Et puis, encore, toujours plein de projets. Un projet d'ératisation qui est prévu à l'échelle de l'archipel, piloté également par la CCPF. La mise à jour d'une cartographie de la végétation, qui est pilotée par la CCPF et le Conservatoire botanique. Et puis, ce projet d'extension, qui va demander du temps et qui est piloté par la réserve. Mais il faut savoir que toutes ces suivis scientifiques et cette amélioration des connaissances permet aussi de mieux connaître le site pour justement mieux le gérer à l'avenir.
Alors on était sur les pratiques, notamment des touristes, mais pas seulement. C'est vous, Marie, qui allez nous donner un peu les recommandations et les bonnes pratiques.
Oui, alors par exemple, en ce moment, on est en pleine période de nidification de pas mal d'oiseaux marins, donc des sternes, des gravelots, des huîtriers ou des cormorans, qui vont nicher un peu sur les îles et îlots de l'archipel. Et du coup, pour aider au maximum à préserver cette nidification, il y a plusieurs recommandations qui sont préconisées. Donc, par exemple, bien tenir son chien en laisse, rester sur les chemins aménagés, donc sur le fameux platelage, et respecter aussi les balisages de protection de nid qui sont mis quand on trouve un nid à peu près près d'un chemin.
Surtout les gravelots qui ont la bonne idée de pondre leurs œufs par terre, c'est ça ?
C'est ça, voilà. Donc bien respecter ces balisages et pas s'approcher pour essayer de voir les petits œufs. Et éviter aussi de circuler sur les hauts de plage ou le haut d'estran parce que c'est vraiment là où ils vont pondre principalement, donc favoriser le bas de plage. Et aussi être attentif en fait aux messages que nous donnent les oiseaux, c'est-à-dire que les huîtriers ils vont vraiment alarmer, crier avec un cri très fort, très aigu. Plus on se rapproche du nid, plus ils alarment. Donc du coup, globalement, l'idée c'est de s'écarter jusqu'à ce que l'oiseau se calme. Et donc quand l'oiseau arrête d'alarmer, c'est que on est suffisamment loin et que il peut revenir couver tranquillement. Et donc pour protéger sa nidification, il y a trois arrêtés. Qui ont été pris de début avril jusqu'à fin août sur trois sites, donc sur l'île aux moutons qui est interdit au débarquement, à l'îlot de la Croix sur Saint-Nicolas aussi, et au nord de Pinfrette pour protéger la colonie de goélands marins, principalement. Donc ça c'est pour la nidification. Et après, en mer, il y a aussi, c'est aussi important de préserver donc, les habitats et les espèces. Et donc, pour protéger par exemple les herbiers des austères, quand on vient avec son bateau pour mouiller.
Donc, les austères, c'est pas une algue, je crois que c'est autre chose qu'une algue, c'est une plante marine,
Exactement.
Qui pousse au fond, c'est ça ?
C'est ça. Et du coup, pour la protéger, on va préconiser de mouiller plutôt dans le sable ou sinon d'utiliser les mouillages écologiques qui sont mis en place. Donc, voilà. Et par exemple, pour l'estran, donc prendre bien la recommandation sur les tailles. Et sur aussi l'état sanitaire du moment.
C'est quoi ça, les tailles de quoi ?
Les tailles à respecter, en fait, on ne peut pas prendre des barres d'une certaine taille.
Ah, pour la pêche ?
La pêche à pied, oui,
d'accord.
Par rapport à la pêche à pied ou sur les coquillages, il y a des quotas à respecter.
On a quand même le droit de pratiquer la pêche à pied au Glénan.
Oui, au Glénan, la pêche à pied est autorisée.
Oui, voilà, et puis après, toujours bien remettre les rochers, une fois qu'on les a soulevés, il y a une grande biodiversité dessous, donc l'idée c'est de replacer doucement le rocher, remettre un petit peu leur toit pour pas qu'ils prennent trop le soleil ou que ça dégrade. Donc, voilà. Et puis en mer aussi, pour les personnes qui ont des bateaux et qui se rendent sur l'archipel avec un bateau, vous allez croiser des phoques, des dauphins. Donc l'idée c'est de rester à une certaine distance pour déranger le moins possible. Donc par exemple les dauphins, essayer d'avoir une trajectoire parallèle, et pour les phoques de pas s'approcher trop proche des reposoirs. Donc on voit quand les phoques commencent à lever la tête, c'est que ils nous sentent arriver, donc ça les dérange. Donc l'idée c'est de toujours rester à une certaine distance pour les déranger le moins possible.
Alors il nous reste juste 2 minutes pour le programme des 50 ans. Marion Diard, qu'est-ce qu'il y aura?
Alors au cours de ces 50 ans, Bretagne Vivante, la mairie de Fouesnant et la collectivité du Pays Fouesnantais ont organisé au cours de l'année plusieurs événements. Il y a tout d'abord un concours photo qui a commencé le 18 avril, jusqu'au 18 juillet. Donc un concours photo ouvert à tous, amateurs, professionnels, enfants. Tout le monde peut envoyer 4 clichés sur la faune, la flore, mais également les paysages. Donc toutes les informations ainsi que le règlement, le bulletin de participation sont disponibles sur le site internet de Bretagne Vivante. On a un cycle de conférences qui est mené avec des scientifiques mais également des associations. Donc là, mardi dernier, on a une super conférence passionnante sur le phare de Pinfrette et prochainement en juin sur l'archéologie sous-marine de l'archipel et à venir sur les mammifères marins, sur l'évolution du trait de côte avec Alain et Naf.
C'est à quel endroit ces conférences?
Globalement, c'est sur le bassin versant. En fait, ça peut être à Bénodet, par exemple, pour les mammifères marins, à Fouesnant, pour l'évolution du trait de côte, et sur la colonie de Sterne, en octobre, par une conférence animée par Jean-Louis Sénoté, le conservateur bénévole, qui est passionnant. Et ça se passe au Stérène, à Tréguin. Donc un cycle de conférences. Et là, prochainement, un événement vraiment très chouette, que c'est le week-end, alors pas qui arrive, mais le week-end d'après, le 24 et le 25, à l'occasion de la fête de la nature, des journées en fait pédagogiques, ludiques, pour découvrir la faune et la flore, mais vraiment de manière ludique. Donc par exemple, vous allez pouvoir devenir un petit scientifique en faisant un comptage terne par vous-même. Donc les enfants vont devoir compter les nids de sterne, ou ils vont découvrir la biodiversité marine à travers un casque virtuel, découvrir la biodiversité terrestre en jouant à un jeu de loi, reconnaître des bagues de gravelot. Donc tout savoir sur le requin perlin avec l'association L'Apex, ou encore connaître et apprendre et découvrir toutes les techniques de voile avec un atelier animé par le Centre Nautique des Glénans.
Et on ira sur le site internet de Bretagne Vivante pour avoir tout le programme. Merci beaucoup. Et dans un mois, on retrouvera Bretagne Vivante dans l'EM. Au revoir.
Au revoir, merci.
Au revoir.